Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous, c'est parti pour les GG, pour les grandes gueules, les amis, content de vous retrouver. Et croyez-moi, pour repartir aujourd'hui, on a une équipe de choc. Bonjour Olivier Truchot.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. C'est un peu l'équipe de France des grandes gueules.
Oui, avec un trio d'attaquants aujourd'hui. Étienne Debig, éducateur, bonjour.
Oui.
Qui est un peu notre, qui est un peu notre Kylian Mbappé.
Les bigs, on ne sait pas si on aurait dû titulariser finalement.
C'est-à-dire
il serait peut-être resté à la maison.
Un peu mou du genou. Ouais.
On a Barbara.
C'est un peu notre Olivier Giroud, quoi. C'est un peu le senior des GG.
Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous.
Ça, c'est la Dembélé des.
Ah oui,
des
Dembélé, c'est un des.
Et voilà le Kylian Mbappé, c'est Charles Consigny. Ouais. Kylian Mbappé.
Bonjour à tous.
Dembélé, paraît-il, a fait un très bon match. Alors je suis.
Paraît-il. Selon des sources informées.
On a une équipe de France qui est bien solide. Dites-moi, comment vous êtes venu ce matin au GG,
tu Étienne? Moi, je suis venu en scooter.
Barbara?
Avec ma voiture électrique.
Et Monsieur Charles?
Moi, je n'en pouvais plus de la ligne 8, donc j'ai pris un taxi.
Ah, c'est terminé le métro?
Bah, le matin à cette heure-là, la ligne 8 n'est pas praticable à Paris.
C'est-à-dire trop de monde?
Tu peux pas monter dans les.
Ah oui, t'es obligé d'attendre.
Il n'y a pas assez de rames.
Ouais. Ouais.
On ne peut pas monter dans les wagons.
Parce que tu sais que ça doit augmenter peut-être.
J'ai laissé tomber. Bah ouais, je sais. Mais je rentrerai en métro tranquillement tout à l'heure.
Eh bien, on va en parler justement. Le prix du métro qui va s'envoler. Est-ce que. Et là, ça va se passer à Paris, mais visiblement, ça va être la tendance dans toutes les grandes villes de France, l'augmentation du prix des transports. Est-ce que vous allez continuer de prendre les transports en commun, oui ou non? Ben, venez en parler avec les GG.
RMC, les grandes gueules.
Il n'y a aucune justification à ce qu'on passe le Navigo, par exemple, à 100 euros et qu'on ait des augmentations de 25 ou 30%. Je n'en vois pas de justification et tout le monde est d'accord pour dire que ça n'est pas tenable. On a justement une discussion qui est encore en cours. Le budget de la région, je crois qu'il sera voté d'ici une quinzaine de jours. Et donc, ces jours-ci, on peut l'utiliser pour éviter justement que les usagers payent une situation intenable. Je crois que ça n'est profitable pour personne. Je ne souhaite pas, en effet, qu'on ait des hausses de cette nature et on va tout faire pour les éviter.
L'enjeu de demain, c'est de faire en sorte que nous prenions moins la voiture et que nous allions davantage dans les transports en commun. Là, vous venez d'entendre le ministre des Transports, monsieur Clément Beaune, qui trouve inadmissible et incroyable l'augmentation à venir. Alors, il parlait là du pass Navigo, notamment.
Oui, et c'est lié, hein, pass Navigo et le prix du ticket de métro. Les deux devraient fortement augmenter. La présidente LR de la région, Valérie Pécresse, a opté pour un pass Navigo à 90 euros. Aujourd'hui, il est à 75,20, donc ça ferait 20% d'augmentation. Le ticket à l'unité coûte 1,90 €. Valérie Pécresse envisage de le faire passer à 2,30 €. Donc là aussi, une forte augmentation. Pourquoi? Parce qu'il y a une envolée des coûts de fonctionnement liés à la crise énergétique. Alors attention, ne soyons pas dupes, c'est un bras de fer qui est en place en fait. Valérie Pécresse laisse fuiter ces informations parce que la décision sera prise en 15 jours pour mettre la pression sur le gouvernement. Parce qu'en ce moment, il y a une discussion autour d'un amendement au projet de loi finance qui pourrait augmenter la contribution des entreprises de plus de 11 salariés au financement de ces transports. Vous savez qu'une partie transport est payée par les entreprises, c'est d'ailleurs la plus forte partie, c'est 50%. Les voyageurs, c'est 38% et la région, c'est 12%. Donc en fait, Pécresse voudrait que les entreprises payent un peu plus, ce qui lui permettrait finalement de n'augmenter le pass Navigo qu'à 80 €. Donc un peu moins. Donc il y a un bras de fer et Clément Beaune y a répondu en quelque sorte en disant que l'État allait voir ce qu'il pouvait faire. Mais d'une manière générale, et on en a discuté ici même avec Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, et lui il dit mais si on est courageux politiquement, il faut augmenter le prix parce que demain on aura besoin de plus d'argent pour construire de nouvelles lignes, pour entretenir, pour embaucher des conducteurs et mieux les payer. On sait qu'à la RATP il y a un vrai souci. D'ailleurs c'est aujourd'hui que Jean Castex entre en fonction à la tête de la RATP, il a de gros dossiers à régler. Alors est-ce que finalement, est-ce qu'il ne faut pas payer plus? D'ailleurs, on paye moins d'ailleurs que nos voisins anglais, par exemple. Ou est-ce qu'au contraire, il faut aller vers la gratuité comme d'autres villes ont décidé de le faire?
Alors, est-ce que vous êtes prêt à encaisser le choc des augmentations des prix des transports en commun? 32-16, Étienne, c'est normal?
c'est normal.
D'augmenter fortement. Bah,
le souci, c'est pas que ce soit normal ou pas, c'est de toute façon, évidemment. aujourd'hui, on sait que le fait de se déplacer, c'est un coût pour la société. On sait que de toute façon, même en payant le prix du métro plus cher, on n'arrivera jamais à payer le vrai prix du transport. Donc, il y a toujours une participation de l'État. Et très sincèrement, je pense que aujourd'hui, les
de
gens
l'État,
qui
c'est
vont
nous,
travailler,
tous les Français,
oui, c'est nous tous. Mais les gens qui vont travailler tous les jours et qui n'ont pas des boulots où on gagne des sommes, et quand on voit le salaire moyen des Français, je vois pas comment ils vont pouvoir payer 15 euros de plus par mois. Ça me paraît complètement délirant. Enfin, pour moi, c'est vraiment quand on vit avec les gens qui sont vraiment qui travaillent et qui sont au SMIC ou un peu plus que le SMIC, le budget transport est un budget important. C'est un budget indispensable. Ça veut dire que oui, ils le feront, parce que de toute façon ils peuvent pas prendre la bagnole, parce que la bagnole c'est 10 fois plus cher, mais ils le feront. Et puis l'employeur paye souvent la moitié de l'abonnement. Mais néanmoins, c'est un budget qui est important. S'il faut payer pour le mari, la femme et les gosses qui prennent ça devient énorme. Ça va être 100 balles de plus par mois. C'est impossible.
Barbara Lefebvre.
On le voit bien. On n'est toujours pas parvenu à régler cette question fin du mois, fin du monde. Parce qu'en réalité, il y a un coût écologique au transport automobile, qu'il va falloir régler, en particulier dans les grandes métropoles, on va pas pouvoir continuer à circuler en voiture comme on le fait. Par ailleurs, on voit bien qu'il y a une grande partie, et de plus en plus de Français, y compris dans les classes moyennes, qui n'ont pas les moyens d'avoir des augmentations régulièrement de 20% de leurs charges contraintes, de leurs dépenses contraintes. Les loyers, la nourriture élémentaire de base, on parle même pas de l'alimentation plaisir. Maintenant, les transports qui sont pas des transports plaisir non plus, c'est les transports pour aller travailler,
l'énergie,
pour se rendre sur le lieu d'études. On voit bien ici qu'il y a un vrai problème et que le gouvernement ne prend toujours pas ça à la racine.
Mais qu'est-ce qui justifie 20% d'augmentation ?
Tu l'as dit toi-même.
C'est au-delà de l'inflation.
Tu l'as dit toi-même. Pour l'instant, on est dans le bras de fer politique, politicien même, hein, d'accord ? Entre Madame Hidalgo.
Ailleurs, ça augmente, mais pas autant. Hein.
Madame Hidalgo, Madame Pécresse, le gouvernement.
C'est aussi un problème. On ne sait plus qui fait quoi. Enfin, les Français ne savent plus qui fait quoi.
C'est inacceptable. Madame Pécresse, c'est socialement inacceptable. Enfin, tout le monde trouve ça inacceptable.
Mais
à un moment donné, il faut prendre des mesures, parce que les Français, eux, à la fin, c'est comme pour payer les impôts. De toute façon, on n'a pas le choix. Au pire, on est poursuivi et on a les huissiers qui arrivent. Eux, ils nous disent que c'est inacceptable, mais ça arrive quand même. Donc, encore une fois, tout ça relève d'un manque de stratégie de long terme, vu depuis une vingtaine d'années. Et la structure du réseau, on en parlera peut-être, de la grande ambition de M. Macron avec ses RER. Mais la problématique, c'est l'état du réseau. Charles parle de la ligne 8. Parlons aussi de l'état de certaines lignes RER. Donc, on va augmenter...
Le D, notamment.
Moi, je prends la ligne RERC. Parce que quand je vais dans Paris...
Entre où et où, alors ?
Ben, c'est tout.
Tu la prends à partir de l'ouest de Paris.
Versailles, a choisi le roi, et ça fait même une boucle. Ce RERC, c'est une calamité. Mais moi, je suis désolée. Il y a 25 ans, quand je prenais le RERC, il n'était pas dans cet état. Les wagons, pourtant, étaient plus vétustes, mais il n'y avait pas des interruptions permanentes. Alors maintenant, on a peut-être des beaux wagons, mais une fois sur deux,
il n'y a plus personne pour les conduire.
Mais c'est pas seulement ça, c'est qu'il est en permanence en travaux. D'ailleurs, l'été, pendant 2 mois, il n'y a pas de RERC. Ce RERC, c'est quand même une ligne touristique, puisqu'il va au château de Versailles. Ça veut dire que juillet, août, les touristes, quand ils veulent aller à Versailles, sont obligés de prendre le bus. Un bus qui va du pont de Sèvres jusqu'à Versailles, je vous dis pas combien de temps il met et comment les gens sont serrés comme des sardines à l'intérieur. Donc là aussi, on voit bien l'état du réseau ne suit pas.
Pour un service qui est moins performant, c'est ça qui est aussi incompréhensible.
Si on devait payer à la hauteur du réseau à travailler, je vous dis même pas, on paierait 200 euros. Oui. Donc le problème, c'est l'investissement depuis des années et des années. Tout ça a été fait n'importe comment. Donc là, on ne fait que payer les pots cassés, comme à l'échelle de la planète d'ailleurs. Charles. On paye les pots cassés. Voilà.
Écoutez, moi, je constate que ce phénomène est le même dans beaucoup de nos services publics. C'est-à-dire qu'on a le sentiment de plus en plus d'avoir des services publics qui se délitent, voire qui s'écroulent, alors qu'on a le sentiment aussi, ça n'est pas qu'un sentiment, d'y investir toujours plus d'argent. Je veux dire, la justice fonctionne très mal, l'école fonctionne très mal, la police, l'hôpital, tout ça fonctionne mal. Et donc notamment les transports publics, et ça on l'observe directement, que ce soit le métro, le RER, les TER aussi. J'ai pris il n'y a pas très longtemps un TER qui allait en Bourgogne. Les gens faisaient le voyage debout dans le TER plusieurs heures bien qu'ils aient payé leur billet, parce qu'il y avait, pour une raison mystérieuse, la moitié du train qui manquait. Et c'était la même chose au retour. Tout ça dans un week-end de jours fériés. Mmh. Donc, j'ai malheureusement le sentiment que c'est assez systématique. Oui. On va voir là à Noël comment ça va se passer. Je suis sûr que ce sera encore la même chose.
Il y a des injonctions contradictoires. Donc, si on nous dit qu'en même temps, il faut abandonner la voiture. Mais moi, je comprends pas. C'est qu'on est capable de dépenser 7 milliards d'euros pour financer le carburant des Français. Et là, on chipote quand il s'agit de trouver de l'argent pour les transports en commun. Il y a des messages politiques qui sont totalement contradictoires. On peut pas à la fois financer le carburant et entendre Clément Beaune ce matin qui chipote en disant on va voir ce qu'on peut faire. On est capable, parce qu'on avait sans doute peur des gilets jaunes, de faire des chèques pour financer les énergies fossiles, le transport en commun qui est censé être l'avenir, puisque au même moment, Emmanuel Macron nous fait une vidéo YouTube pour nous dire il faut des RER partout dans toutes les villes. Enfin, tout ça, c'est Macron, des injonctions contradictoires, des messages.
Tout à l'heure, il est complètement satellisé comme d'habitude.
C'est assez lié, ouais.
Il est sur sa planète. Et lui, il nous parle au futur de tout ce qu'il va faire de merveilleux dans 35 ans, alors qu'on aurait bien aimé qu'il s'occupe de ce qui se passe maintenant. Moi, je demande d'abord un audit de ces entreprises pour voir quel est le temps de travail effectif des gens. Absolument.
Tu demandes à Jean Castex un audit ?
Oui, je demande que Jean Castex nous dise quel est le temps de travail effectif.
Faut demander à McKinsey
réel. Qui fasse un audit. Mais pourquoi pas pour une fois, tu vois ? Quel est le temps de travail effectif réel des gens dans cette entreprise ? Quels sont les salaires dans cette entreprise ? Quels sont notamment les salaires des cadres ? Je me souviens par exemple à la SNCF de salaires de cadres extrêmement élevés, Madame Parly, pour ne pas la citer, qui était rémunérée plus de 50 000 euros mensuels. Peut-être ça explique en partie le prix des billets de train.
C'est pas le salaire du conducteur.
Et le sous-investissement chronique, oui, mais le conducteur, il part à la retraite à 55 ans. Je demande la retraite à 67 ans pour tout le monde. Dans ces entreprises, je veux des gens au travail.
Mais personne qui veut y aller bosser.
Je pense qu'il y a. Mais forcément, parce que les gens sont perfusés d'aide. Ils peuvent s'improviser.
Si c'était des métiers si attractifs, tout le monde voudrait y aller.
Non, mais parce que maintenant, les gens sont nutritionnistes, professeurs de yoga, naturopathes, et tout ça est payé par le quoi qu'il en coûte. Et ils font ça, bien sûr, au bord de la mer, en télétravail.
Ça va être comédien,
et donc, du coup, il n'y a personne pour conduire les trains. Donc, moi, je demande un audit de ces entreprises.
On a besoin
de
naturopathes.
Et je demande aussi, j'aimerais aussi qu'on regarde comment a été dépensé l'argent public sous ce quinquennat. Voilà. Je demande d'avoir, par exemple, ce qu'a financé la Banque publique d'investissement, qui a été une espèce d'open bar pour tout et n'importe quoi. Je demande d'avoir les aides sur les entreprises, y compris les très grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent. Je demande d'avoir les salaires des gens qui pantouflent à la Cour des comptes. Tout ça, je le demande. Et je trouve si on faisait ce travail-là, peut-être qu'on trouverait de l'argent pour les salaires
en Haute-Garonne. Je voudrais qu'on aille en Haute-Garonne écouter Lorenzo. Bonjour Lorenzo.
Oui, bonjour.
Parce que vous êtes régulateur de bus, tram, donc du côté de Colomiers, c'est ça, en Haute-Garonne. On s'affole, là, on voit le prix des quais de métro, du pass Navigo, là, qui va augmenter. Alors, ça va augmenter partout en France, mais beaucoup moins dans les autres villes. Vous pensez que c'est normal, vous, ou pas ?
Alors, déjà, à Toulouse, ça a déjà augmenté plusieurs fois.
Oui.
Chaque année, ça augmente à peu près de 10 à 15 centimes. Et alors, que ce soit normal, on peut en débattre. Le souci, c'est les frais de fonctionnement. Par exemple, à Toulouse, je sais que le réseau, en fait, a augmenté ses frais de fonctionnement de 24 millions d'euros par rapport au prix de l'énergie. On est passé de 6 millions d'euros par an à 30 millions d'euros par an. Et après, c'est toujours pareil. Qui va payer ? Il faut savoir aussi que les tickets, c'est à peu près 20% des frais de fonctionnement de l'entreprise.
C'est ça.
Tout le reste, c'est payé par les impôts. Donc, c'est toujours pareil. Donc, les frais de fonctionnement augmentent. Les investissements, il faut en faire encore plus parce qu'on nous dit qu'il ne faut plus prendre la voiture, qu'il faut prendre les transports en commun. Donc il faut développer les lignes, il faut là on va construire une troisième ligne de métro à Toulouse.
Donc il faut plus d'argent.
Et il faut plus d'argent, donc c'est toujours pareil. Si on veut pas augmenter la facture de ceux qui paient les tickets, on va le prendre où l'argent ? C'est toujours.
On va le prendre à tout le monde. Les villes qui mettent la gratuité des transports, il y en a plusieurs là. On en parle souvent dans les grandes gueules. Elles oublient de dire que forcément il y a bien quelqu'un qui paye. Et là c'est tout le monde. Alors est-ce que c'est le voyageur qui doit payer ? Ou est-ce qu'il y a une solidarité nationale sur les transports ? C'est ça la question.
En fait, le voyageur, il paye pas forcément ses transports. Quand il achète un ticket ou son abonnement, il paye une sorte de contribution au réseau. Il ne paye pas son transport.
Non.
Et
ça, il faut le redire. Ça.
Soyons justes, parce qu'il y a quand même eu énormément d'investissements ces dernières années sur par exemple, à Paris. Nous, par exemple, là où j'habite, on va avoir le métro l'an prochain. Il n'y avait pas de métro à Noisy-Sec, Rosny-sous-Bois, et on va avoir le métro. Et il y a un développement avec le Grand Paris, un développement d'énormément de lignes. Et il y a eu un énorme investissement de infrastructurel.
Il y a la ligne 14 qui est pas mal.
Je parle de ce qui se développe aujourd'hui.
Oui, bien sûr.
C'est quand même des gros investissements. C'est pas une petite rigolade. Hein.
Il faut bien trouver de l'argent.
Mais oui.
Merci à Lorenzo d'avoir été avec nous. Ce coup de fil de la Haute-Garonne, ou lui aussi. Mais il s'interroge, lui, sur la manière dont sont répartis les hausses. Parce qu'il dit les frais de fonctionnement et autres, ça coûte de plus en plus cher. Aussi, c'est une chose, et on sait plus ce qu'on doit payer, quoi.
Et on sait plus qui paye aussi.
Et on sait plus qui paye, effectivement. Aujourd'hui, bon, ben, le prix du ticket de métro qui va s'envoler, le pass Navigo qui va passer aussi.
À 90 euros. Ça extrêmement cher.
90 euros.
Mais la moitié est payée par l'employeur, en règle générale, pour les gens qui travaillent.
C'est normal, parce qu'il y a plein de gens
Les étudiants, c'est pas 80, c'est un peu moins.
Ou est-ce que ça dissuade de prendre les transports en commun? 32-16 pour continuer d'en parler avec les GG. Dans un instant, Grégory avec nous, il est conducteur SNCF. Il dit, il y a aussi un problème, c'est le manque de recettes aussi.
Oui.
Il va donner ses arguments. À tout de suite avec les GG.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Je suis le poinçonneur des lilas pour un valide changé à opéra. Je vis au cœur de la planète, j'ai dans la tête un carnaval de confettis, j'en amène jusque dans mon lit.
Poissonneur des lilas.
70 ans, ça va. 60 ans. C'est né 55.
Là, c'était qui? C'était Gainsbourg.
Ouais, Gainsbourg.
Bah oui, enfin 50.
Et Gainsbourg quand il était jeune.
Oui, parce qu'elle a tellement été chantée de fois, celle-là aussi. Le poissonneur des lilas, on va parler dans un instant avec un contrôleur SNCF de l'augmentation des prix des billets, des tickets. Le pass Navigo 90 euros, c'est le 7 décembre que ça va être acté. Alors Valérie Pécresse qui dit d'ailleurs, si on augmente à 90 euros, c'est de la faute du gouvernement. C'est parce que le gouvernement ne veut pas compenser la hausse du coût de l'énergie. Donc francilienne, si vous allez casquer, c'est pas contre moi qu'il faut pester, c'est contre Emmanuel Macron. Alors est-ce qu'elle a raison ou pas dans cette histoire?
Madame Pécresse.
Hein?
Oui, en fait, c'est normal, ça. C'est normal. C'est la guérilla habituelle politicienne. Ça, on en a marre.
C'est incompréhensible, surtout parce que les Français ne savent plus qui s'occupe de quoi.
Ben oui, c'est très compliqué, la France. Mais enfin, c'est pareil partout.
Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la région?
Nous, on a au moins trois niveaux ou quatre niveaux d'administratif entre l'État, la région, le département et la ville. Il y a des pays comme la Belgique où, en plus, il y a les curés qui se mettent dedans et qui ont aussi donc c'est encore plus compliqué. Pour faire un truc, faut avoir 5 accords. Nous, faut 4 accords. Mais, je pense qu'on en a un peu marre.
C'est surtout qu'aujourd'hui, tu payes quoi que tu payes, par exemple le TER par exemple sur la Côte d'Azur entre Vintimille et Cannes, on va dire ça comme ça, il est pourri, il est jamais à l'heure, c'est naze, il est blindé. Tu prends le métro ici, comme le disait Charles, une rame sur deux, ou voire aujourd'hui une rame sur trois, tu peux plus monter dans la rame.
Alors le boulot est tellement sympa, comme dirait Charles, qu'il n'y a plus de chauffeur, c'est vachement sympa.
C'est pas bien entretenu.
Non mais...
Et moi, ma fille, je te dis, le soir, elle prend plus le métro.
Alors,
elle veut plus. Elle veut
alors
plus
à, prendre à, le métro à Paris, le soir, moi, comme je fais, un bémol. On a quand même le réseau. On a un maillage assez.
C'est pas le maillage.
Quand tu voyages un peu dans le monde,
unique au monde, oui.
Tu te dis, c'est dingue. Il y a qu'à Paris où il y a autant de lignes de métro, parce qu'en fait, t'as un métro à.
Mais on a pris des habitudes.
À pied, tous les 200 mètres. Il y a aucune ville comme ça.
C'est pas le maillage.
Plus t'as un maillage dense. Plus il faut de l'argent pour l'entretenir.
T'as une capitale comme Madrid, où le maillage du métro n'est peut-être pas, est loin d'être celui qui équivaut à Paris.
C'est pas le même.
Je sais pas, prends le métro à Madrid, tu vas voir la différence avec la France.
Il y a que deux lignes. Et bon, alors là, pour le coup, le centre-ville est entièrement piéton.
Voilà.
Donc de toute façon, alors là-bas, c'est marrant parce que en Espagne, et là j'étais.
Non, mais d'accord que le métro tient autrement mieux.
Mais même quand t'as deux lignes, même en Italie.
Même à Athènes, il est mieux qu'à Paris.
Mais bien sûr, quand t'as deux lignes, c'est plus facile que quand t'en as 27.
C'est vrai.
Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Moi, il y a une autre chose.
Notre métro, il date de 1900.
Oui, mais il y a une autre chose. C'est cette décentralisation qui a consisté à transférer des compétences voilà. à différentes collectivités, oui. mais à ne pas transférer correctement
les fonds.
Voilà. Et en même temps, donc, obliger l'État à être toujours là dans la subvention, la dotation, donc c'est facile de s'en prendre à lui. Et en même temps, c'est légitime de s'en prendre à lui, puisqu'il te délègue des compétences.
C'est une fausse décentralisation.
Mais il te donne pas. Donc, c'est une fausse décentralisation.
Ah ouais, ça, c'est clair.
Ni à droite, ni à gauche, dans aucun candidat, on a eu quelqu'un qui proposait un vrai choix. C'est-à-dire, soit on recentralise, comme en fait, en réalité, a fait Sarkozy, Hollande et Macron. Parce qu'en fait, ils veulent absolument
Macron
toujours
est un
garder.
Étatiste.
Bien sûr. Étatiste, jacobiniste.
Peut-être plus que Hollande et Sarkozy. Réunis.
Ah oui, largement plus, parce que c'est un homme qui aime énormément contrôler le pouvoir.
Mais les Français sont centrales.
Il s'est jamais senti aussi bien que pendant le Covid, quand il pouvait nous enfermer selon ses desiderata. Et ou bien un candidat. Non, mais ou bien un candidat qui choisit la vraie décentralisation.
Mais
vous avez entendu parler d'administration.
Non,
mais attends.
Il y en a pas.
Juste un point. Pendant la dernière campagne, vous avez entendu parler d'aménagement du territoire? Personne n'a parlé d'aménagement du territoire. Aucun candidat.
Non, mais Barbara.
Et même écologiquement,
Barbara,
sur la cause écologique,
attends,
c'est,
je voudrais qu'on
c'est
écoute,
fondamental.
Barbara,
je voudrais
plus personne n'ose dire un truc qui. Tout ce que tu dis qui est un peu révolutionnaire par rapport à l'organisation, tu remets en cause, la culture française.
Non, attends,
je suis pas d'accord. La culture française, c'est Paris au milieu et tous les autres autour.
Non, la culture, ceux qui sont formés à l'ENA, pardon, mais je pense que les Français, ils veulent une vraie décentralisation. Mais ils ont compris que aujourd'hui, c'est un marché de dupes. Effectivement, Pécresse, elle a pas vraiment de pouvoir. Bah Pécresse, elle gère des trains, mais elle a pas les moyens de les payer. Elle demande à l'État de l'aider.
Tu
aux entreprises,
parce que c'est beaucoup d'entreprises qui financent.
Sans doute, oui.
Bah moi, je préférerais un fédéralisme en France que d'un fédéralisme européen bidon.
Si ce système que tu défends.
Non, mais je dis pas que c'est bien. Non, mais je le défends pas. Depuis le début, je défends une vraie décentralisation où Paris perd du pouvoir et on donne une véritable pouvoir au chef lieu du départ
dans tous les sujets, à chaque fois, on a des gens qui nous disent redonnez-nous pouvoir. À l'hôpital, redonnez-nous du pouvoir. À l'école, redonnez-nous du pouvoir.
Mais même l'énergie, il faut la gérer localement.
Donc, au contraire, moi, je pense que les Français veulent qu'on leur fasse confiance, on leur donne les moyens de bosser, et après on leur fout la paix.
Alors,
on fera des économies parce que, comme le dit Charles, on n'aura pas besoin d'avoir des hauts fonctionnaires et des petits chefs partout.
Mais parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur fasse confiance. Or, on a systématiquement des hommes politiques et des femmes politiques qui pensent que les Français sont des débiles.
Sont des cons.
Et qu'on est idiots, qu'on ne sait pas se gouverner nous-mêmes, qu'on ne sait pas se diriger nous-mêmes, qu'on n'a pas de libre arbitre. Même pas de libre arbitre, même en tant que travailleur.
Attends, on a Riyad qui nous appelle de Paris 15e. Bonjour Riyad.
Oui, bonjour les GG.
Alors, prêt à payer plus cher le pass Navigo, le ticket de métro et tout?
Ben non, moi ça m'a bien fait marrer parce que non seulement je payerais pas plus cher, mais en plus ça fait déjà 6 mois que je ne le paye plus.
Ah bon, pourquoi?
Tout simplement parce que je trouve que le service il est pas rendu. Moi je travaille vers la Courneuve et je commence à en avoir ras-le-bol d'avoir des incidents tous les jours. Donc déjà 75€, je trouvais que c'était déjà assez cher payé. Mais alors là, quand on m'a dit qu'on va payer 90€, ça m'a bien fait marrer. Mais alors moi, ça fait 6 mois que je ne le paye plus. Et je me dis, si les contrôleurs, je leur donne une fausse identité.
Parce que vous trouvez que le service n'est pas à la hauteur.
Mais ils vont contrôler votre identité, non?
Alors non, moi ça m'est arrivé une fois. Alors comme je sais qu'à Paris, les effectifs de police ils sont largement sous-effectifs.
Jean Castex.
Ah ouais, non mais c'est ça. Moi je leur donne une fausse identité. Alors j'ai eu droit au traditionnel. Ben écoutez, on va appeler la police pour vérifier votre identité. Je sais pertinemment qu'ils le feront pas. Ils sont sous-effectifs, ils sont en galère, la police va jamais se déplacer pour vérifier l'identité d'un techno qui a pris le RER en fraude. Et ça, je l'assume à 200%, parce qu'à un moment donné, la qualité qu'on a dans les transports à Paris, c'est inadmissible.
Oui, mais alors attendez, c'est le serpent qui se mange la queue, parce que si on fait tous comme vous, il y aura encore moins d'argent pour que le service améliore, vous comprenez?
Je suis tout à fait d'accord. Ben, il faut qu'on me propose une solution viable, parce que augmenter les tarifs tous les ans... non, moi je suis arrivé à Paris il y a 10 ans, le Navigo je crois qu'il était à 50€, je sais plus. Ensuite il est passé à 75, ça n'a rien arrangé. Donc,
oui, mais la fraude, excusez-moi, je suis désolé, on peut pas vous laisser dire ça parce que la fraude, c'est aussi un vrai souci, un manque de financement. Quand vous allez à Marseille, vous prenez le bus à Marseille, personne ne paye le bus. Moi, ça m'avait frappé. On était les seuls à avoir un ticket de bus. Moins l'argent rentre.
C'est que 20% du.
C'est 20% moins. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien que quelqu'un paye.
Tout à fait. Moi, la solution que j'ai, c'est renforcer les effectifs de contrôle. C'est-à-dire empêcher les gens de sauter les barrières.
Mais vous allez vous foutez de notre gueule.
Parce que vous pensez que vous êtes pas assez contrôlé.
Excusez-nous, cher Riyad, vous vous moquez de nous là.
Non, regardez.
On va pas renforcer les effectifs de contrôle pour des gens comme vous qui fraudent.
Justement, elle est très simple. Empêcher les gens de passer en fraude, empêcher les gens de sauter les barrières, et automatiquement, vous aurez des revenus.
D'accord, mais ça améliorera pas les problématiques de circulation, ça.
En Allemagne, il n'y a pas de barrière. Voilà. Vous prenez le métro à Berlin, il n'y a pas de barrière.
Non, mais exactement. Mais vous serez assuré. Paris
sur le civisme des gens et les gens payent leur ticket.
Ah, bah oui, cher, bien sûr. Mais il faut prendre en compte aussi le civisme des gens. Et vous savez très bien qu'à Paris, j'avais la rage quand je prenais le RER et que je voyais 90% des gens qui le prenaient en fraude.
Oh non, disais, non, c'est pas vrai. Écoutez, là, franchement, moi, je vous dis un truc. Hein. Moi, le métro, le RER, je l'ai pris pendant 20 ans, tous les jours. Et il y a eu des contrôles de temps en temps le matin quand les gens vont bosser entre 6h et 8h du mat. Je n'ai jamais vu personne se faire coller. On avait tous la carte orange, on avait tous imaginaire, après, c'est à partir de 10h du matin qu'il y a des fraudeurs parce que c'est plus tard dans la journée. Mais là où il y a le gros flux, il y a jamais de fraudeurs parce qu'on a tous un abonnement.
Tout mais Riyad, vous êtes marrant quand même, Riyad, parce que vous êtes très contradictoire dans ce que vous dites.
Comme des porcs dans les RER. Comment vous expliquez qu'on est entassé?
Parce qu'il y en a pas assez.
Et on nous explique. Oui, parce que si les gens validaient à chaque entrée, la RATP serait capable de comptabiliser le nombre de passagers et serait capable de mettre plus de trains.
Mais vous savez quoi aussi, dans les RER, le problème c'est que la population a grossi en Île-de-France, tout le monde est parti vivre à l'Est pour travailler à l'Ouest, et la ligne A du RER s'est retrouvée saturée. Là, il y a eu un manque d'anticipation.
Mais Riyad, vous faites quoi dans la vie?
Moi, je suis informaticien.
Ouais, d'accord. Donc, vous gagnez bien votre vie en plus, ça va
Mais carrément. Mais moi, je vous le dis, si je paye pas, c'est pas par manque de moyens.
C'est une position politique.
C'est un peu compliqué votre raisonnement. Moi, je paye pas un service que. Je vous dis. Là, heureusement, on est en télétravail.
Oui, vous l'empruntez. Vous payez pas un service, mais vous l'utilisez quand même, ce service.
Exactement. Mais là, je suis en télétravail.
Donc, on paye pour vous.
Deux fois par semaine.
Mais donc, on paye pour vous.
Attention. Allez-y.
Est-ce que vous trouvez normal de payer un service où systématiquement il y a des problèmes dessus? Je veux dire, systématiquement, on vous pose à Gare du Nord parce que il y a un incident entre Saint-Denis et la Courneuve.
Donc, en fait, Riyad, si je suis votre logique un peu politique, il faudrait que les usagers fassent une grève.
Oui, c'est mais bien sûr, il y en a.
C'est un acte de désobéissance.
Le don't pay britannique.
Tous ensemble. Attention, allez-y.
Chinois. Et vous suivez le collectif Plus de Train que je suis sur Twitter. Qui
un don't pay.
Ils ont beau gueuler, il se passe rien. Ils ont beau faire des rendez-vous avec un tel ou un tel, il se passe rien du tout.
Est-ce qu'il n'a pas tort pour que justement...
C'est un système qui existe là.
Oui, mais seulement ça changera pas le problème, c'est que ça changera pas du jour au lendemain.
Oui, mais ça
n'a pas marché en Grande-Bretagne.
Il y a un ras-le-bol, quoi. On paye 90 euros en pleine inflation.
Mais on est d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que l'investissement, le changement des voitures, la remise à niveau du réseau et tout ça, on sait, puisque ça avait été annoncé, il y en a pour 5 à 10 ans, là, Riyad.
Donc,
Là, en ce moment, franchement, je pense que la RATP, elle investit beaucoup.
Le Grand Paris.
Énormément sur le Grand Paris.
Mais le Grand Paris, ça fait 150 ans qu'il est en
construction. Allez, Aurore est avec nous.
Ça y va.
Peut-être que nos arrière-petits-enfants le verront.
Non,
bonjour, Aurore.
C'est pour les Jeux Olympiques.
Ma chère Aurore, alors vous êtes conductrice de bus. Vous nous appelez donc du Puy-de-Dôme. Est-ce que ça a augmenté chez vous le prix du ticket, Aurore?
Pas encore. Ça a augmenté sur la grosse ville Clermont-Ferrand, mais ça date de la dernière appel d'offres. Et je tiens à rappeler que c'est pas les entreprises qui déterminent les appels d'offres et qui déterminent le prix du ticket. Ce sont les collectivités.
Oui, c'est vrai. Oui, vous avez raison. Et comment ça se passe, vous, les lignes de bus chez vous? Est-ce qu'elles sont... ça fonctionne? C'est en bon état? La fréquence est bonne? Les usagers, les clients sont contents, Aurore?
Sur mon petit réseau, oui, ça se passe bien, même si là, on veut la collectivité pour laquelle on travaille a décidé d'ouvrir une nouvelle ligne, et il manque deux chauffeurs.
Et on les trouve, les chauffeurs, à Clermont-Ferrand, parce que visiblement, il y a un problème en Île-de-France. Non, on les trouve
non,
pas.
Non, parce que le problème, on n'en trouve pas en France, parce qu'il y a un problème de salaire. Sauf que pour augmenter le salaire des chauffeurs de bus, il faut augmenter la dotation de l'appel d'offres. Sauf que ce n'est pas nos employeurs qui vont pouvoir nous augmenter le salaire comme ça. Par exemple, je vous prends sur 50 000 euros, on n'augmente pas à 55 000 euros, ils ne pourront pas augmenter, même s'ils le veulent, les salaires.
Et alors, c'est combien c'est rémunéré un chauffeur de bus
chez vous à Clermont, dans le Puy-de-Dôme?
Donc, une dame, on est à 11,60 euros brut.
Ce qui vous fait à la fin du mois combien, Aurore?
Sans les heures sup, 1 600 euros.
Oui.
Oui, encore et trop, après, encore trop pour Monsieur Consigny.
Voilà. Non, je dis pas ça. Non, mais vous partez et vous faites combien de temps de travail?
En heure effective. Alors, d'ailleurs, je voulais vous répondre, Charles, parce que pour le niveau de.
Par exemple,
de
travail, à la SNCF, ils font pas 35 heures.
Eh ben, nous, même
ils
si on a
des la nuit.
Ils font moins de 35 heures par semaine.
À 25 heures, contrat de 110 heures par mois, je peux vous dire qu'ils sont à 150 heures par mois. Et moi, personnellement, qui suis à 35 heures, je suis à 160 heures par mois depuis deux ans. Depuis le Covid et depuis une grande départ de la plupart de nos collègues qui sont partis.
Oui, c'est ça.
On était tous liés.
Vous êtes obligé de compenser le départ de nos collègues.
Et on fait des heures à foison. Et encore, moi, je suis l'une qui travaille le moins parce qu'avec mes horaires de boulot, je ne peux pas trop faire de sortie scolaire. Mais j'ai des collègues, ils sont à 170 heures, 180 heures par
donc
mois.
La situation, en fait, se dégrade pour ceux qui restent.
Pourquoi les collègues sont partis? Qu'est-ce que c'était quoi la raison du départ?
Le salaire par rapport au danger comptant, parce qu'il faut vous rappeler, là, on a eu une collègue dans le Sud qui a été jugée, qui doit faire de la prison. Il faut rappeler que si un conducteur de bus, même s'il n'est pas responsable de l'accident, un accident de bus, c'est des morts.
Ah bah oui, bien
et
sûr.
Et on a ça sur la conscience. On prend des risques. Si on s'est chopé, ne serait-ce que pour de l'alcool à cause d'un médicament, parce qu'il y a des médicaments qui ont de l'alcool qui font qu'on ne peut pas normalement conduire, ça peut être retrait du permis pour 5 ans, ça peut aller jusqu'à 175 000 euros d'amende.
C'est un peu normal.
Enfin, c'est qu'on a des sanctions derrière et des risques.
Bien sûr. Et vous dites que c'est pas cher payé.
Non, je rappelle qu'on justifie souvent le salaire des pilotes de ligne en disant que c'est une énorme responsabilité parce qu'ils ont 50 ou 100 personnes derrière. Mais là, il y a 35 personnes et c'est une énorme responsabilité.
Raison.
Donc,
il faut payer les conducteurs de bus comme les pilotes d'Air France. Comme les pilotes d'Air France.
Non, mais faut payer.
Ils sont les salariés quasiment les mieux payés de France.
Non, mais
les raffineurs.
Faut payer les gens. Faut les payer les gens en fonction de
merci.
Aujourd'hui, ils vont être mieux payés parce qu'il y en a plus.
On a posé la question est-ce que vous allez continuer de prendre les transports alors que les prix des transports en commun et du métro continuent d'augmenter? C'est un non, un petit non. Enfin non, un non à deux tiers quand même. Oui, 64%.
Tout à l'heure, c'est des gens qui prennent leur bagnole. Ça.
Mais tu mets 8 jours pour arriver au boulot.
Tiens, puisqu'on parle,
si je venais en voiture ici, je mettrais 2h15 le matin.
Si puisqu'on parle transport tout à l'heure dans le à vous de choisir à 11h, on vous propose deux sujets de discussion. La grève qui continue chez GRDF et qui va priver 1500 personnes, 1500 foyers de chauffage, ou la sanctuarisation des trottoirs pour les piétons, c'est-à-dire qu'on va acter quasiment par la loi que les trottoirs sont réservés aux piétons et pas aux trottinettes, pas aux vélos, pas aux rollers, juste pour les piétons. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? C'est sur rmc.fr que vous choisissez le sujet. Et rendez-vous tout à l'heure à 11h. Dans un instant, on s'en fout pas. Bruno Le Maire reconnaît les abus du gouvernement dans l'affaire McKinsey. Les députés estiment qu'ils travaillent trop. On s'en fout ou on s'en fout pas? À tout de suite.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Avec Elina. Ah, les GG, les grandes gueules. Sur RMC, RMC Story. Les grandes gueules avec Étienne Hébic, toujours vivant.
Oui, mais à la limite. Hein,
Presque, on est. Non, soins palliatifs, pas loin. Hein,
pas loin. Je m'habitue tout doucement.
Est-ce que je peux dénoncer?
Attends, j'annonce Barbara Lefebvre.
Non, parce que ça concerne Étienne, parce qu'il a été exclu de Twitter. Je trouve ça inadmissible. Je comprends pas cette censure.
Pourquoi?
Parce que t'étais très actif. Je ne comprends pas pourquoi on a viré
Twitter. J'ai été exclu parce que à la suite d'une émission ici où on a précisé qu'on essaie de moins en moins, mais qu'il y avait de plus en plus de monde parce qu'on vivait plus longtemps, j'ai fait cette blague pour un interlocuteur en lui disant, à ce moment-là, faut tuer tous les vieux. Et Twitter l'a pris au sens premier en disant, Étienne Hébig incite à un meurtre de masse de toutes les personnes âgées, ce qui serait une erreur. ce serait très con de ma part de vouloir tuer les vieux.
Le second degré, quoi, en fait.
Le second degré n'existe pas chez Twitter.
Mais il n'y a pas moyen. Comment tu fais pour.
J'ai envoyé un truc en disant, c'est une blague, quoi. Oui. Prenez ça au premier degré. En plus, je travaille dans des journaux d'humour, je fais de l'humour depuis très longtemps.
Mais c'est quelqu'un qui t'a signalé ou c'est Twitter tout seul?
A priori, Twitter tout seul.
Et ils te répondent ou pas?
Ils me répondent, oui, nous allons étudier votre dossier, mais à chaque fois, il m'a dit...
C'est les formules qui sont envoyées directement par informatique.
Non, c'est ce qu'on appelle une censure.
Charles Consigny, Barbara Lefebvre, Étienne Liebig, c'est l'heure du « on s'en fout ». On s'en fout pas dans les coulisses IG, on appelle ça le « OCF ».
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Avec Anaïs Sainz.
Et pourquoi tu cries?
Oh, je sais pas.
Alors que Barbara ne crie pas aujourd'hui.
Ah non, aujourd'hui, je ne peux pas crier.
Je me suis fait peur moi-même.
Salut les GG, bonjour à tous. Le nombre de détenus en France a atteint un record absolu avec 72 809 personnes derrière les barreaux. On s'en fout pas, Charles.
On s'en fout pas.
Etienne,
on s'en fout pas.
Barbara, fout pas. Charles.
Je ne suis pas étonné par ce chiffre. Moi qui pratique toutes les semaines nos tribunaux répressifs, je constate la passion de certains magistrats pour l'incarcération. J'en suis parfois constaté que certains juges en sont à trouver des prétextes pour incarcérer les gens ou pour les maintenir en détention. Parmi ces détenus, il y en a un peu moins de 20 000 qui sont détenus à titre provisoire dans le cadre d'enquêtes et qui sont donc présumés innocents et qui potentiellement seront finalement innocentés. Je pense qu'il faut changer de braquet.
Et
je constate à titre, écoute-moi, en tout cas, je constate à titre personnel que parmi mes clients détenus, un très grand nombre, voire une majorité, le sont, à mon sens, de manière très excessive et complètement
20%
inutile.
Sont des prévenus, d'ailleurs, en c'est attente ça, de jugement.
Non,
c'est ce que j'ai dit.
27, c'est ce pardon.
C'est le mandat de dépôt, ouais.
Et donc, le mandat de dépôt, toute personne qui est en détention est sous mandat de dépôt. Moi, je constate que...
Mais peut-être qu'on n'a pas construit assez de places de prison.
Non, moi, je constate qu'il y a beaucoup d'abus des magistrats sur la détention. Pas de tous les magistrats, mais de beaucoup. Il y a plein de détentions inutiles.
Étienne.
Je suis assez d'accord. Il y a plein de détentions inutiles. Il faut savoir que, effectivement, la prison, qui à l'origine était à la fois pour punir, mais aussi qui devrait avoir un rôle de réinsertion, est totalement, c'est impossible vu cette surpopulation carcérale d'avoir un rôle de réinsertion.
Donc, t'es d'accord qu'il faut construire plus de places.
Au contraire. Oui, mais c'est une course sans fin parce que, visiblement, il y a des gens qui s'amusent à mettre des personnes en prison qui devraient pas l'être.
Les GG, le mea culpa de Bruno Le Maire qui a reconnu hier sur France 3 des abus sur le recours au cabinet de conseil. On écoute le ministre de l'économie.
Je pense que nous sommes allés trop loin. Dans le fond, on avait pris sans doute trop l'habitude de dire voilà, l'administration n'est pas capable de faire ce travail, on va externaliser et demander à des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a eu effectivement une dérive.
Est-ce qu'on s'en fout? On s'en fout pas de cette sortie de Bruno Le Maire, Barbara?
On s'en fout pas.
Étienne?
Non, on s'en fout pas.
Charles?
On s'en fout pas.
Barbara?
On s'en fout pas parce que monsieur Le Maire, il est au courant qu'on est en 2022. On n'est pas encore en 2027. C'est-à-dire, il commence déjà à nous tisser la petite histoire, le petit storytelling. Regardez, moi, Bruno Le Maire, je suis déjà capable de prendre de la distance, d'être un peu critique vis-à-vis de l'action de ce gouvernement. Déjà, je commence à faire entendre ma petite voix, très différente de ce qu'on peut entendre par ailleurs dans le gouvernement. On a vu Monsieur Véran qui venait tout de suite à la rescousse de Monsieur Macron, parce que pour Monsieur Macron, il n'y a pas de problème. Je pense que
Véran a utilisé McKinsey notamment pour la campagne vaccinale.
Mais il n'a pas arrêté.
Il peut difficilement trouver qu'il l'avait abusé.
Non, je pense que là, Monsieur Le Maire nous fait une petite campagne politique personnelle. En réalité, s'il était élu président en 2027, il réutiliserait tous ses copains de McKinsey.
Je crois qu'il faut vraiment faire la part des choses. J'y connais pas grand-chose, mais je vois qu'on externalise systématiquement partout, tout. Dans toutes les entreprises aujourd'hui, les services, par exemple, de comptabilité, les services de conseil sont externalisés. Parfois même, ils sont externalisés aux États-Unis ou en Chine. Donc, en fait, cette forme d'externalisation qu'a utilisé le président, qui fait partie de la génération précisément start-upper, est pas du tout étonnante. C'est précisément le problème de l'externalisation générale.
D'accord, mais comprends. Mais dans un pays où l'État est présent partout,
c'est
incompréhensible.
Mais c'est ça.
Dans un pays libéral, effectivement, où il y a très peu de fonctionnaires, tu as besoin effectivement d'une expertise, tu prends un cabinet privé, c'est compréhensible. Mais dans un pays comme le nôtre, où on croule sous l'administration, alors soit on a une administration qui n'est pas compétente, et c'est inquiétant, elle n'est pas bien formée. Soit effectivement.
Est-ce que ça a été économique d'aller chez McKinsey plutôt que de le faire en interne? On ne sait pas.
Quand tu vois les
outil lui-même en plus.
Les contrats de l'éducation nationale.
Les GG, nos députés sont exténués, amendements par centaines, horaires de nuit. La présidente de l'Assemblée nationale reçoit aujourd'hui les chefs de groupe pour évoquer une éventuelle réduction du temps de travail des députés. Est-ce qu'on s'en fout ? On s'en fout pas. Charles ?
On s'en fout.
Étienne ?
Non, on s'en fout pas.
Barbara ?
Non, on s'en fout pas.
Étienne ?
Moi, je pense que quand je pense qu'on en fait trop, et je pense qu'il y a une espèce de cinéma de voir ces gens à ferrer, etc. Et je pense que quand d'un seul coup il y a 600 amendements, quand on voit bien que c'est impossible de travailler sereinement dans ce c'est le système qui est à revoir, qu'on puisse travailler sereinement et réellement discuter des sujets pour faire avancer le pays, plutôt que de se vendre son petit truc personnel comme ça s'est passé sur la corrida ou d'un seul coup, zing, il y a eu un nombre d'amendements qui était complètement ingérable. Donc c'est même devenu absurde. C'est pas, moi je m'en fous qu'ils bossent, au contraire, même s'ils font 3000 heures, je m'en tape. Mais au moins que ce soit bénéfique au pays, là ça ne l'est pas.
Barbara ?
Oui, c'est vrai que c'est un temps de travail qui n'est pas forcément efficace. Les députés ont toujours beaucoup travaillé, mais là, on sent qu'ils travaillent pour pas grand-chose.
Pour que le 49-3 soit ensuite décidé, en plus.
Pour sortir du 49-3, et surtout pour pas être assez présent et assez disponible en circo. Le plus important aussi, c'est d'avoir des députés en circonscription. Aujourd'hui, surtout les députés de province, ils passent leur temps à Paris, à dormir dans leur piole, là, dans leur bureau avec leur lit tout pourri là qui s'ouvre.
C'est non mais ouais, c'est, leur lit armoire.
Non mais c'est
le petit nous l'avait montré ce lit.
Ouais.
Non mais c'est
d'ailleurs
vraiment,
elle restait coincée dans le lit.
On a tendance un peu à se moquer, etc. Et
il paraît c'est le lit qui restait coincé.
Elle serait peut-être toujours coincée parce que son bureau n'a
Claire,
pas été
Claire, on t'embrasse
réaffecté.
Parce qu'elle nous écoute. C'est des vannes. Hein.
Claire, si t'es encore dans ton
lit armoire,
dans l'armoire, crie parce que là les gens vont écouter.
Appelle quelqu'un à l'aide.
Essaye d'appeler quelqu'un.
Tu peux peut-être
que le député qui t'a remplacé dans le bureau.
C'est Louis Boyard maintenant qui est dans son.
Ah, c'est Boyard.
C'est Boyard. Bah,
demande à Louis
bureau.
De venir te décoincer.
Je rigole.
Non, quoi? C'est un député.
Et je rigole. Ouais, dans l'heure, sûr, c'est Luan. Ouais. C'était une
vanne. Étienne, depuis qu'il est plus sur Twitter, il est deuxième degré.
Je n'ai plus d'humour du tout.
Allez, dans un instant, merci Anaïs, à tout à l'heure pour le quiz des GG. Dans un instant, avec les grandes gueules, vous avez entendu ce qu'a dit Bruno Le Maire ?
Encore lui ?
Lui ?
Oui, oui, il estime qu'il faut redonner la priorité aux Français pour le travail. Il faut faire revenir au travail nos compatriotes, dit-il, et l'immigration, le recours, ça doit être en dernier. Donc, d'abord les Français, ensuite les immigrés. Il a raison, Bruno Le Maire.
C'est pas beau, la priorité nationale.
Mais je comprends pas ce que ça veut dire.
Dire.
Oh, c'est pas joli, joli.
Quand c'est Bruno
hein.
Le Maire qui le dit, c'est
oh,
propre.
C'est pas beau.
Je comprends pas ce que ça veut dire.
32-16 pour venir en parler avec les GG. On vous attend, bien sûr, en direct sur RMC et RMC Story.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.